du féminisme dans ta radio.
And we want revolution. Girls talk.
Superlatif d'Élise sur Antenne Doc.
Bande de connes.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Tous les premiers dimanches du mois à 14h.
Et en rediffusion le jeudi qui suit à 14h aussi.
Ferme ta braguette.
Et prends-en de la graine.
Superlatif d'Élise.
Superlatif d'Élise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Superlatif d'Élise de l'été. Aujourd'hui, je suis toujours avec Fred à la technique dans son bocal.
Bonjour à vous.
Et avec Fanny, qui n'est jamais venue dans l'émission, mais que vous allez découvrir aujourd'hui.
Bonjour Pauline, bonjour Fred.
Et on a aussi Léon, hein, mais Léon dort dans un coin, roulé en boule, dans un coin du studio. Voilà, puisque c'est un chien. Aujourd'hui, on avait envie de faire une émission sur le thème du self-help, puisque c'est une expérience qu'on a vécue le mois dernier, justement, Fanny et moi-même, qui nous a... qui a changé des choses pour nous et qui a induit des choses vraiment intéressantes dans notre façon de réfléchir à plein de choses. Et du coup, on avait vraiment envie de parler de la pratique du self-help. Le self-help, qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique de réappropriation de son corps via des ateliers collectifs, notamment par rapport au domaine gynécologique et au domaine de la santé sexuelle. Et donc, ce sont des ateliers qui se déroulent collectivement où on développe une auto-expertise sur notre propre corps parce que, en fait, on a été particulièrement, donc les personnes qui possédons des chattes, hein, on a été particulièrement dépossédés et expropriés dans l'histoire de ce domaine de connaissance, y compris les sages-femmes qui, elles, sont devenues... On les a placés un peu comme subalternes des médecins. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu cette idée-là. C'est un savoir qui a été ôté. Je ne reviendrai pas sur le Moyen-Âge et la chasse aux sorcières parce que ça mériterait une émission. Mais il y a quand même un passif comme ça. Le self-help, c'est donc une pratique qui nous vient des USA. À partir de la fin des années 60, en fait, à Boston, il y avait des groupes de parole et certainement... Partout d'ailleurs aux États-Unis, il y avait des groupes de parole sur la sexualité qui étaient organisés par un équivalent du MLF. Et dans ces groupes, on constatait une évidente ignorance anatomique par rapport au sexe, en fait. Et petit à petit, donc, les femmes et les personnes se sont réunies et ensemble ont décidé de se réapproprier ces savoirs gynécologiques et cette connaissance de soi qui avait été confisquée, quoi. Ça a donné lieu à énormément d'ateliers, à énormément de savoirs qui ont émergé, d'expériences partagées. Et ça a donné lieu en 1971 à cet ouvrage qui s'appelle « Notre corps, nous-mêmes », qui est quand même, entre guillemets, la bible du self-help, et qui est arrivé seulement en 1977 en France en version traduite. Je mets à votre disposition l'édition originale française qui est un peu collector, si ça vous dit de feuilleter ça. C'est arrivé cette pratique en Europe, j'ai pas mal en Amérique du Sud et puis aussi en Europe via des personnes comme par exemple Rina Nissim dont on reparlera, qui est notamment l'autrice de Mama Mélisse, qui est ce mémoire d'autogynécologie par les plantes. Elle a développé beaucoup ça en Suisse notamment. Et donc, il y a eu cette pratique aussi en France dans les années 70. Et ensuite, il y a eu, de nos jours depuis quelques années, un renouveau aussi de cette pratique-là, parce que notamment, il y a les prises de conscience via les prises de conscience des violences gynécologiques et obstétricales. Mais ça ne date pas d'il y a 2-3 ans non plus. Il y avait quand même déjà un renouveau cette pratique dans les mouvements DIY, donc des mouvements particuliers, militants, donc dans des milieux relativement restreints. Et ce n'était pas très étonnant que ce soit dans ces milieux-là, parce que de toute façon, le self-help, c'est réellement approcher une vision politique de la relation à son corps que l'on couple avec un vécu collectif. C'est vraiment, enfin à mon sens, c'est ce que j'en ai compris, c'est vraiment cet aller-retour entre une vision politique de soi couplé à une création de commun, quoi, à un vécu collectif. Et il y a toujours plus que jamais besoin de cette réappropriation pour, ben voilà, je pense qu'on est quand même les mieux placés pour savoir ce qui est le mieux pour soi. Et puis pour sortir de ce truc où le médecin décide pour nous. Parce que, en fait, c'est ça, le terreau sur lequel ça se pose, c'est que le pouvoir médical se base sur l'ignorance qu'on a nous-mêmes de notre propre corps. Hein. Combien de fois on nous a refusé juste une simple explication claire de ce qui nous arrive. Et combien de fois on est ressorti d'un cabinet gynéco en n'ayant pas vraiment compris ce qui n'avait pas été expliqué. Donc, voilà. Et du coup, ça crée le truc de on est en position de faiblesse et on est complètement désarmé par rapport à une figure qui détient l'expertise, en fait. La figure de l'expert qui, donc, nous prive d'autonomie et donc de confiance.
Et je dirais même plus qu'au-delà de ça, au-delà de ce que ça peut nous apporter par rapport à au médical, c'est aussi connaître son propre corps. C'est vrai que pouvoir poser un regard sur son sexe et le connaître dans sa totalité, sans faire des comparaisons avec les hommes, par exemple, qui voient quand même leur sexe depuis qu'ils sont tout petits, ils voient la globalité de leur sexe. Nous, on n'en voit que la moitié, et encore pour les plus curieuses, parce que je ne suis pas sûre que ce soit le chemin de toutes. Et c'est aussi ça, c'est la découverte vraiment de notre corps et de comment ça fonctionne. Et ensuite, on pourra agir dessus et en effet pouvoir pallier le système médical.
Bah oui, parce qu'on nous a quand même, dès le départ, habitués à l'idée qu'on a besoin d'une aide et d'une assistance technique, en fait, hein, un petit peu comme une boxe. Voilà, d'une assistance technique pour vivre son corps et sa sexualité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont pathologisées, alors que ce sont juste des phénomènes physiologiques normaux, type ovulation, menstrues, etc. C'est des choses que nous, on peut observer et surveiller parfaitement nous-mêmes, en fait. Et en fait, moi, je me suis dit, la plupart du temps, les gynécos, dans leur cabinet, et reçoivent des patientes qui sont parfaitement saines. Donc, il faut aussi... saines, je mets ce mot entre guillemets, hein, bien sûr, mais qui ne sont pas malades. Voilà. Donc, ça peut être bien de désacraliser cette expertise aussi. Du coup, quand on se retrouve face aux praticiens, on se retrouve face à quelqu'un qui a un savoir, et donc face à quelqu'un qui a un pouvoir. Et c'est ça qui rend, ça donne tout ce qui sort du placard aujourd'hui, mais qui existe depuis absolument toujours, hein, je le dis, hein, c'est pas, y a pas de lubie, il n'y a pas d'hystérisation de quoi que ce soit. À partir du moment où on a un pouvoir, ça rend les praticiens parfois brutaux, parfois, dans le meilleur des cas, juste pressés et prétentieux, ou moralisateurs, paternalistes, etc. On a tous et toutes des expériences multiples de culpabilisation, voire d'humiliation, de gestes déplacés ou de gestes douloureux aussi, qui sont de manière injustifiée douloureux, des remarques aussi, des petites remarques qui sont un peu choquantes, qui sont paternalistes, des attitudes qui sont simplement blessantes et ça peut aller jusqu'à des abus. Et ce sont ces personnes qui nous regardent et qui voient ce que nous ne voyons pas. Et on finit par trouver ça parfaitement normal, parfaitement banal, et l'envisager comme un passage obligé, qui n'est pas super cool, mais on est obligé. Voilà. Et ça, en fait, si on se pose deux minutes la question, c'est peut-être pas normal. Voilà. Le mois dernier, avec Fanny, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a participé à un atelier de self-help qui a duré une journée sur Toulouse. C'était chouette, hein.
C'était carrément chouette.
On a passé la journée, on était peut-être 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et c'était un atelier qui était dans une non-mixité choisie, qui était destiné en fait à des personnes qui ont ou avaient eu des organes tels que vulve, clitoris, ovaire, utérus, etc. Et donc, c'est une sage-femme qui s'appelle Lou qui proposait cette journée, et je vous propose d'écouter Lou, parce que j'ai fait un petit enregistrement ce jour-là et je pense qu'elle est la mieux placée pour en parler. On l'écoute.
Donc moi, je m'appelle Lou, je suis sage-femme, enfin j'exerce en tant que sage-femme depuis plus de 2 ans maintenant en libéral. J'ai terminé mes études à Toulouse il y a à peu près 5 ans. le processus qui m'a amenée à proposer ces ateliers-là, ça a été un peu un mix entre mon approche personnelle et professionnelle. Moi, j'ai fait mes études de sage-femme, j'avais déjà une réflexion féministe et militante, une certaine compréhension systémique et globale des rapports d'oppression qui existent et des violences structurelles et interpersonnelles. Et du coup, ça a été assez clair pour moi pendant mes études de plein de manières différentes que le système de santé tel qu'il est proposé actuellement, il est source de beaucoup de violences. Et plutôt dans une démarche qui va amener à une perte de confiance de soi, pas se sentir légitime dans ses limites, dans ses ressentis et tout ça. Et du coup, moi, en tant que sage-femme, je voulais vraiment pas contribuer à ça et je voulais beaucoup plus contribuer à accompagner les personnes à se réapproprier la connaissance de leur corps, de reprendre confiance dans son pouvoir d'agir et sa légitimité dans ses choix, dans accompagner à une personne à pouvoir faire les choix qui lui conviennent le mieux pour son propre corps, sa santé, etc. Et du coup, personnellement, j'ai découvert les groupes de self-help, qui sont donc des groupes autogérés, sans professionnels de santé, qui sont du coup une idée de construction collective des savoirs, avec vraiment le principe de base que chaque personne est sachante de plein de choses, et qu'en mettant en commun des savoirs, on construit donc du savoir et du pouvoir d'agir collectif. Et que ça amène à la fois à l'autonomie, à l'empowerment, à l'autosupport, à plein de choses. Et j'ai eu envie en fait de mixer cette approche-là avec mon approche professionnelle. Et ça a pris entre autres le format de ces ateliers-là. Donc moi je suis là en tant que, enfin aussi en tant que sage-femme, enfin je suis pas dans les ateliers en tant que sage-femme, mais je viens avec ma formation de sage-femme et du coup ma démarche vraiment profonde, c'est de pouvoir contribuer à redistribuer des savoirs qui ont été élitisés aux sages-femmes, aux gynécos, et que toute personne qui le souhaite puisse se réapproprier les connaissances sur son corps, sur comment ça fonctionne, etc. Et autant des connaissances théoriques, pratiques, et aussi des compétences, de la maîtrise d'outils, de choses, soit pour en faire le choix d'une autonomie dans sa santé, soit pour pouvoir contribuer à ce que les moments de consultation avec des professionnels de santé, ça, soit des moments de partenariat où des deux côtés, il y a du pouvoir d'agir, de l'écoute, et où on casse ce côté vertical des consultations classiques, quoi. Là, ça fait plus d'un an que je propose deux fois par mois des ateliers. Donc, il y a deux formats d'ateliers. Un atelier que j'appelle découverte, qui va durer 4 heures. Et où on va vraiment on va parler plutôt de l'anatomie, de la physiologie et tout ça. Et il y a une partie d'auto-examen. Et il y a un deuxième format d'atelier qui est donc celui qu'on a fait aujourd'hui, qui s'appelle Autonomie des premiers soins en santé gynécologique. Et celui-là, donc, c'est en 2x3 heures. Et la démarche, c'est vraiment que les personnes puissent acquérir une certaine autonomie de diagnostic, de compréhension plus poussée, quoi, du fonctionnement du corps, et de pouvoir être plus autonome dans son soin et tout ça. Et ces deux ateliers-là, je les propose deux fois par mois depuis plus d'un an. C'est ouvert à 10 personnes et ils sont tout le temps pleins. Et encore une fois, j'ai envie de préciser que c'est une certaine façon d'approcher le self-help, dans le sens où traditionnellement, le self-help, c'est vraiment des groupes autogérés de personnes qui vont plutôt se retrouver régulièrement. Et moi, la façon dont je vois mes ateliers, c'est vraiment avoir envie de proposer une porte d'entrée vers ces ateliers-là ou vers une autonomie. Et il y a vraiment un truc que je trouve hyper précieux et très contribuant aussi de la régularité des groupes de self-help. Que c'est un même groupe qui va s'accompagner pendant des mois, des années. Et il y a une force particulière vraiment là-dedans.
Voilà, c'était le petit topo de Lou. Effectivement, le self-help, c'est une pratique d'un groupe qui se retrouve régulièrement. C'est pas ce que nous, on a vécu le mois dernier. C'était effectivement, comme elle disait, une porte d'entrée. Mais extrêmement vite, on s'aperçoit effectivement que il y a quand même on reprend du savoir et donc du pouvoir et donc de la force, et que petit à petit on reconstruit en fait collectivement une connaissance de laquelle on avait été expropriés. Et ça permettait quand même de développer un regard critique et féministe, bien sûr, sur sa santé sexuelle. Ça nous a permis d'avoir des apports de savoir au niveau de l'anatomie et de la physiologie. Ça nous a permis de comprendre que bah, c'est bien de découvrir comment notre corps il est en temps normal, en fait. En temps normal, quand tout va bien, pour pouvoir après reconnaître, identifier les changements et voir les évolutions de ce changement. Et puis, d'être un peu moins démunis pendant une consultation, parce que ça peut arriver qu'on ait besoin, du coup, d'une consultation à un moment donné. L'idée étant de, éventuellement, peut-être, un jour, créer un meilleur dialogue avec le soignant et ne plus subir, en fait, la consultation. Donc, on gagne en force par rapport à cette institution un peu toute puissante pour que, un jour, peut-être, ce serait bien, le soignant soit un partenaire et pas un référent, en fait. Et du coup, on peut arriver en pouvant décrire des symptômes qu'on a observés, comme la couleur de notre col, comme la teneur de nos sécrétions, etc. On arrive en sachant quoi dire et on sort nous-mêmes de cette culture du corps contrôlé, quoi.
Alors moi, je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est qu'en effet, le fait de pouvoir... créer une relation de partenariat avec le gynécologue ou la sage-femme ou la gynécologue. Je trouve que c'est important, notamment dans la construction qu'on peut avoir à n'importe quel âge. Je prends mon exemple. Je suis allée chez la gynéco à peu près à 14 ans. Et ça a été une aventure qui a été assez délicate, puisque j'étais en pleine mutation sociale, mais sexuelle aussi. Et que montrer mon sexe sans consentement, ça devenait vraiment quelque chose de très compliqué au moment où bah justement je découvrais mon corps, mais je montrais aussi le corps à l'autre, et puis je découvrais aussi le corps de l'autre. Et le fait de ne pas avoir ce partenariat avec donc cette personne dite référente, ça a été pour moi quelque chose de très douloureux. Alors que si on se réapproprie notre corps, que la relation change et que ça devient réellement un partenaire, on va vers du consentement. Et je trouve que c'est très important dans la construction, parce que on va chez le gynéco très jeune. Et en fait, je trouve qu'on est encore plus désarmé parce qu'on est jeune, parce qu'on se méconnaît. On se méconnaît réellement physiquement, et que c'est d'autant plus un passage où on est vulnérable.
Exactement. Et par rapport à cette histoire du corps contrôlé par l'institution médicale, ben c'est aussi tout un potentiellement une culture de la disponibilité du corps au contact de l'autre, quoi.
C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on a un chemin particulier, c'est-à-dire qu'on montre notre corps sans pour autant qu'on ait de problème ou de maladie. Donc c'est très bien qu'on ait des check-ups, je trouve ça assez chouette qu'on puisse être checké, mais en même temps ça devient extrêmement violent, parce qu'on est un peu considéré comme des corps malades tout le temps, et puis sous couvert de résultats, finalement non.
Je vous propose d'écouter, avant de passer à la suite qui va être encore plus follement intéressante, on va s'écouter un petit morceau de Peaches, Vaginoplasty. With big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake up, bitch, and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle. Suckle, snuffle. Up a kiss, stuffing it. Up in it, are you up to it? Vagina plasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Pussy's big and I'm proud of it. You could dig, dig, dig in and out of it. Make a crowd of it, bow down to it. Won't be long till you drown in it. An extra tongue is extra fun. He's extra hung, bring an extra sun. Wanna join in too, got room for you in my Lucy Lou. Ooh. Happy pig and truffle. Suckle, snuffle. Up a kiss, stuffing it. Up in it. Are you up to it? Vaginoplasty.
Get a girl. Happy, pink in trouble. Suckle, snuffle. Up a giz, stuffing it, up in it. Are you up to it? Happy, pink in trouble. Suckle, snuffle. Up a giz, stuffing it, up in it. Are you up to it? Are you up to it?
Vaginoplastie, le morceau de Peaches qui est très fier de ses grandes lèvres. On va peut-être un petit peu plus parler de cette journée de self-help du coup, qu'on a vécu avec Fanny. La journée, elle s'est... Voilà, il y a eu des temps un peu différents. Tu peux un petit peu expliquer ?
Complètement. Déjà, on a été accueillis donc, dans un cabinet qui ne ressemblait absolument pas à un cabinet médical, mais plus à une maison. Donc, il y avait des espaces de détente, des espaces pour manger, pour se retrouver, des espaces pour prendre soin de soi, se laver. Donc, c'était déjà chouette de découvrir un lieu comme ça, qui n'était pas avec des murs blancs complètement stérilisés, qui de base te crispent. Ensuite, bien évidemment, Lou nous a accueillis avec une grande chaleur, nous a mis complètement à l'aise. On a pu avoir un endroit pour nos affaires, on a eu de quoi grignoter, boire un coup. On a eu aussi un petit moment pour se rencontrer les unes avec les autres sans que, on va dire, le stage commence. Donc ça a été aussi un moment très agréable. Ensuite, on a démarré par une présentation de chacune qui, moi, m'a vraiment fait du bien. On a ressenti dès le départ la bienveillance, notamment sur la présentation qu'on avait envie de faire de nous-mêmes, mais pas forcément ce que le cadre légal nous impose depuis notre naissance. On pouvait dire le prénom qu'on voulait, on pouvait choisir le pronom par lequel on voulait être appelé. Et elle nous donnait une trame de présentation, mais on pouvait bien évidemment dire ce qu'on voulait partager ou non, le pourquoi on était là par exemple. Donc dès le départ, une grosse détente ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de journée. Sur la matinée, on a abordé plutôt tous les aspects théoriques, on va dire plutôt physiologique. Donc, elle a bien évidemment guidé ses propos via des supports visuels avec un modèle pelvien qu'elle a choisi avec, on va dire, dans une réalité des échelles. Donc, se rendre compte où était notre vessie par rapport à notre utérus, par rapport à notre rectum, les ovaires, ce qu'on appelle un utérus rétroversé, par exemple. Donc tout ça, c'était très intéressant de voir à quel point tous nos organes pouvaient finalement communiquer entre eux. Et donc on a abordé, on va dire, toute la physiologie de notre bassin, plus que vraiment le point de vue, on va dire, de notre sexe, puisque tout est lié. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et elle a aussi parlé du par exemple du pH de notre vagin qui pouvait soit amener des mycoses chroniques, soit des cystites chroniques, avec aussi des alternatives, notamment au travers de l'alimentaire, de comment on pouvait rétablir ce pH assez facilement, et nous expliquer en fait tout simplement comment notre vagin et notre sexe fonctionnent pour pouvoir lui apporter au quotidien ce dont il a besoin pour le renforcer au niveau immunitaire. Et ensuite, l'après-midi, on a... donc le midi, déjà, on a mangé tout ensemble avec tout sorti du panier. Donc ça reste encore dans une ambiance pas du tout scolaire, où il y a eu des libres échanges qui étaient aussi très intéressants et qui contribuent à une mise en confiance. Et ensuite, l'après-midi, donc, on est passé à des auto-examens. Alors j'imagine déjà, en tout cas moi c'est un petit peu l'idée que j'en avais, je me demandais si on allait être quand même dans une intimité ou si ça allait être, allez on déballe tout chacune devant tout le monde, mais en même temps on se connaît pas. Et là encore, beaucoup de bienveillance. On avait donc chacune des petits paravents. On pouvait être aussi avec des jupes sur les genoux, des foulards. Et ensuite, donc, on est passé à l'auto-examen. Chacune à son rythme, avec quand même, on va dire, la trame théorique du matin, avec une possibilité de poser des questions et d'aller à son rythme sur la découverte spéléologique de son sexe, avec bien évidemment aucune obligation. C'est-à-dire qu'on pouvait aller là où on voulait aller, on pouvait aller au bout de la découverte, comme on pouvait s'arrêter en chemin, on pouvait aller prendre l'air, revenir, aucune obligation de tout ça. Et là où je renforcerais sur l'aspect collectif, c'est que je pensais personnellement que ça allait être un frein, en fait, à la découverte de mon intimité. Et je m'aperçois que ça a été réellement un support. En fait, ça m'a énormément aidé. Alors je parle vraiment en mon nom, mais le fait qu'on puisse échanger, que je puisse voir que d'autres avaient des doutes, que d'autres avaient peur, que finalement on était toutes dans des sentiments plus ou moins communs, ou en tout cas qui pouvaient se rapprocher, eh bien ça m'a donné de la force. Et pour le coup, l'aspect collectif du self-help, je l'ai compris curieusement dans l'auto-examen.
En tout cas, pour ce moment de l'auto-examen, de l'auto-exploration, parce que ça a été un petit peu ça, ça a été un moment assez incroyable. Et effectivement, ce truc de « ouais, on se met bien et on prend soin du consentement les uns des autres aussi », de « est-ce que… » Parce qu'on pouvait, comme tu le disais, effectivement être derrière des paravents. On pouvait choisir soit d'être vu, soit de voir, soit les deux. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pose la même question de savoir est-ce que j'ai envie d'être vue et surtout est-ce que j'ai envie de voir aussi. Donc c'était, y avait ce truc-là. Et du coup, on passait notre temps à se demander si c'était OK, est-ce que je peux venir là ou est-ce que... Enfin, il y avait un truc qui s'est installé d'emblée, très facile et évident, de prendre soin de ces consentements mutuels tout au long de ce moment-là, quoi. Et après, au niveau pratique, parce que j'imagine que... Pour ceux qui l'ont jamais fait, vous demandez peut-être en quoi ça consiste vraiment. Alors, on commence par se laver les mains, hein, c'est pas mal. Et puis, ensuite, il faut surtout soigner son confort. Hein. Lou avait pas mal insisté aussi là-dessus. Il y avait vraiment plein de choses à disposition, des coussins, tout un tas de trucs qui pouvaient nous mettre dans un moment vraiment de confort, quoi. Et puis, l'observation, ça se fait de manière très simple avec des outils abordables. Facilement, c'est-à-dire un miroir. Alors un miroir avec un pied, hein, de préférence, c'est plus facile. Les miroirs sur pied, là, avec un petit pivot.
Alors, il y a un côté grossissant et un côté qui ne l'est pas.
Ça, on
ça
le verra
nous a
dans
beaucoup
le petit,
fait rire.
Une lampe de poche.
Oui.
Voilà, pour pouvoir vraiment éclairer la zone qu'on observe. Et puis, un spéculum. Alors, un spéculum, c'est un outil qui peut être contestable, effectivement, puisque c'est l'outil de l'institution médicale et puis qui a quand même été inventé dans des conditions de violence coloniale absolument infectes. Mais on utilise quand même cet outil-là.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Moi, généralement, j'imaginais le spéculum froid en métal qui nous glace les ovaires, pour reprendre l'expression. Là, c'était vraiment des spéculums en plastique.
Oui, puis en fait, ouais, effectivement, de l'avoir soi-même dans les mains. Parce que c'est quand même un peu impressionnant. Et d'avoir cet objet-là dans les mains, ça concrétise un truc. C'est aussi une étape psychologique. Alors, avant l'étape de l'utilisation du spéculum dans l'auto-examen, il y a déjà la première chose, un regard sur l'extérieur. Hein. Donc, en se mettant assise sur ses ischions. Hein. Donc, soit avec des paravents, soit en mettant une jupe, soit, voilà, comme tu disais, on avait le choix là-dedans. Le miroir devant nous. Et puis la lampe de poche qu'on cale un petit peu comme ça nous va, sur le ventre, ou même on peut la prendre dans la bouche, hein, mm-hmm. pour éclairer le miroir. Et là, on peut vraiment observer les lèvres extérieures et intérieures, qui peuvent avoir du coup toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. On peut voir le gland du clitoris avec le clitoris, son capuchon, etc. On peut trouver son méa urinaire, ça a été une petite aventure aussi. Et aussi les ouvertures qui sont sur les côtés du méa urinaire et qui servent à l'éjaculation, qui sont plutôt des fossettes. Hein. On a mis, pareil, on a expérimenté, c'est plutôt un trou, plutôt des fossettes, plutôt machin. On a pu observer aussi, par exemple, l'état de cicatrisation, je dirais, de l'hymen, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, souvent il reste en fait des bouts d'hymen qui font des genres de pétales, un peu.
À l'entrée du vagin.
À l'entrée du vagin, voilà, on a pu observer ça pour les personnes qu'on avait. Éventuellement, voir si on aperçoit la bosse des glandes de Bartholin. Regarder aussi l'espace qui est lisse entre le méa et le gland du clitoris, qui est plus ou moins grand selon les personnes. Et puis tous les replis de peau, parce qu'il y en a partout, des replis de peau qui ferment les orifices et qui protègent les orifices, en fait. On s'est aperçu que chaque petit orifice était protégé par plein de plis.
On dirait une rose.
Et voilà.
Il y a plein de pétales qui recouvrent.
Il y a eu un moment où on était quand même un peu perdus, hein, pour bien l'avouer.
Mais pourtant, il y a un manuel à côté avec tous les termes que tu as utilisés.
Il existe des manuels, évidemment, et on en parlera à la fin. Et puis, évidemment, on est accompagné dans tout ça. Et puis, tout ça se co-construit. Donc là, je vous livre un petit peu toutes les différentes choses qu'on peut observer juste à l'extérieur. Mais c'est pas obligé de les voir, c'est pas obligé d'en avoir, c'est pas obligé de les voir tout de suite, c'est pas obligé. C'est juste, je fais part un petit peu de ce qu'on a découvert ou redécouvert, ou on savait que ça existait mais qu'on n'avait pas vraiment vu. Je poursuis sur cette exploration. Donc ça, c'est l'exploration extérieure. Et puis, on peut ensuite essayer de sentir ses ovaires aussi. C'est ce qu'on a essayé de faire en rentrant un doigt dans le vagin et en essayant de sentir ses ovaires. Donc en fait, si on met... c'est pas tellement radiophonique ce que je vais dire, mais si vous mettez vos deux pouces dans le nombril et que vous rejoignez vos index de manière à former un genre de triangle, vous saurez que vos ovaires sont à peu près sous vos auriculaires. Voilà. C'est à peu près la zone, et quand vous pressez cette zone-là sur votre ventre avec un doigt de la main gauche, si vous êtes droitier, et que vous rentrez l'index droit dans votre vagin, et en essayant de les faire se réunir, peut-être vous arriverez à sentir... votre ovaire. Il se trouve que certaines personnes l'ont senti dans l'atelier. Moi, je ne l'ai pas senti. Voilà, c'est pas grave. C'est pas,
Alors, moi, je l'ai senti. Et quelque chose qui m'a bien guidée, c'est qu'en fait, on sent le col de l'utérus. Et de part et d'autre du col, on sent vraiment deux petits trous.
Le cul-de-sac.
voilà, deux petits cul-de-sac. Et c'est en fait dans ce cul-de-sac qu'il faut mettre le premier doigt. Et ensuite, comme disait Pauline, très juste titre, on essaye de faire rejoindre le doigt qui est donc sur l'extérieur de la peau et le doigt qui est à l'intérieur du vagin. Et quand on essaye donc de les... Moi, je l'ai senti, c'était ma première fois. Quand on réunit en fait ces deux doigts-là, on arrive à sentir un peu son ovaire. Et en tout cas, pour les personnes qui peuvent être sujettes aux kystes, eh ben, ça peut être aussi un bon moyen de désarmer ses peurs, puisque des kystes parfois entraînent des choses très douloureuses, et que pour le coup, ne pas avoir affaire au corps médical dès que la peur revient, à la moindre douleur, etc., eh ben, là, on peut aussi reprendre confiance en soi.
Alors, tant qu'on est à l'intérieur, il y a aussi d'autres choses à sentir, notamment avec simplement son doigt, hein, à l'entrée du vagin. Donc, côté ventre, hein, quand on rentre, par exemple, l'index dans le vagin, si on replie son doigt comme pour dire « viens ici », à ce moment-là, on va sentir une zone qui est un peu rugueuse, striée et un peu dure. Et là, cette zone, c'est l'extérieur de la glande de Skene, qui est un petit peu c'est la glande qu'on peut appeler la glande d'Anarka, et que j'en vous encourage à appeler la glande d'Anarka encore dans cette histoire de la gynécologie, parce que Skene, c'est le monsieur qui a découvert la glande, mais on n'a pas trop envie d'être son pote. Et du coup, derrière cette zone rugueuse, vous avez cette glande qui sécrète l'éjaculat. Et vous pouvez aussi éventuellement, en tournant autour, sentir aussi l'os de son pubis et aussi le croisement le carrefour des piliers, des bulbes du clitoris en fait. On arrive à cet endroit-là, vraiment à une zone où se retrouvent toutes ces choses-là. Voilà, donc il suffit de rentrer son doigt, c'est vraiment pas très loin, à une phalange, et replier le doigt comme pour dire viens ici, on peut sentir ça par exemple. Et après c'est pareil, on était tout un peu, il y avait des personnes, c'était plutôt à gauche, plutôt au milieu, des personnes qui sentaient moins, bon, c'était juste une première entrée en matière de cette pratique. Et puis, ensuite, si on le souhaite, on pouvait utiliser ce fameux spéculum qu'on peut se procurer pour pas cher en pharmacie. Fanny, tu m'avais dit que ça coûte rien du tout, ça.
Ouais, ça coûte
1,80€, quelque chose comme ça.
Oui, je pense que c'est, j'aurais dit, aux alentours de 2-3€.
Voilà. Et on peut acheter des caisses sur Internet.
Voilà, et sachant que c'est pas à usage unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le lave avec du savon et de l'eau chaude, c'est quelque chose qui peut être complètement réutilisable.
Donc, alors là, c'est un moment où le lubrifiant est ton ami, hein. clairement. Voilà. Donc voilà, on peut à ce moment-là utiliser le spéculum, et c'est-à-dire, ça c'est vachement chouette parce que du coup, c'était la première fois que c'était moi qui le rentrais et que du coup, je gérais le timing, je gérais la façon de le poser, etc. La vitesse, le timing, tout ça, c'était très bien. Après, un spéculum, c'est pas compliqué à utiliser. On peut régler l'ouverture aussi. Et puis, une fois qu'il est ouvert, on voit l'intérieur du vagin. Et avec son miroir et sa lampe, on peut observer les parois intérieures du vagin en accordéon.
Dans quelle position
Alors ça, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on va passer un petit montage où vous allez entendre tout ce qu'on est en train de raconter là. On est assis sur les fesses, enfin sur les ischions, avec les jambes écartées, mais on peut aussi être dans une position accroupie. Et ça, c'est vraiment dans l'énergie, le confort et l'envie de chaque personne qui pratique.
Mais il y a aussi l'anatomie, c'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai absolument pas vu mon col de l'utérus en étant sur mes ischions, justement. Il a fallu que je sois vraiment accroupie pour le trouver. Et une fois que je l'avais trouvé, je me remettais dans une position plus confortable et j'arrivais à le maintenir en visibilité. Mais il y a certaines personnes, en fonction de leur corps ou de leur confort, qui ont besoin de passer, on va dire, par une position étape. Voilà. Ouais,
ça m'a fait pareil. Et puis un col, ça bouge. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va le voir dans une position, puis le lendemain, ou en tout cas à un autre moment, on pourra le voir dans une autre. Voilà.
Alors, je ne sais pas quelle image vous avez de votre col, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce à quoi moi je m'attendais.
Effectivement. Donc déjà, avant de voir son col, on voit son vagin.
Oui. Bien sûr.
Et ça, c'est déjà très impressionnant parce qu'on le sait, hein. Enfin, on le sait, des fois on le sait pas, mais le vagin, c'est un accordéon, c'est pas un tube. Donc déjà, c'était un peu impressionnant de voir cet accordéon.
Je dirais une jupe plissée.
Ouais. Ah, moi, j'ai plutôt vu un accordéon. Cette texture, cette couleur, enfin voilà, on découvre tout ça, on découvre la couleur, on découvre tout ça. Et puis, selon le moment où on est du cycle, si on a un cycle... On voit la présence ou l'absence de sécrétions et comment elles sont réparties, etc. Et quelle visibilité on a. Et puis ensuite, on part en quête du col, quoi. Et effectivement, il est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des fois facile à trouver parce qu'il est dans la ligne, dans l'alignement du spéculum, et c'est facile. On ouvre le spéculum, on tombe dessus, on l'a dans le viseur, et puis des fois, il faut le trouver, il faut bouger un petit peu. Voilà. Donc c'est... Alors quand on le voit, franchement, on ne peut pas se tromper. Je crois qu'une fois qu'on l'a en face, on ne peut pas douter que ce soit autre chose. C'est vraiment, ça ressemble à le dessus d'une cerise quand on a arraché la queue. C'est vraiment exactement ça, ou le dessus d'une pomme. Et ça peut aussi tout à fait ressembler au gland d'une bite. Hein. Sauf que le trou peut être tout à fait rond et pas forcément allongé.
Alors ça, et d'après ce que j'ai compris, Lou expliquait que ça dépendait vraiment du cycle. Qu'en fait, le trou pouvait évoluer en fonction des différentes périodes. Et moi, j'ai eu un doute quand même en le voyant, parce que vu que ça fait quand même 34 ans que je l'imagine et que j'ai une imagination débordante, je le voyais plutôt en rondelle de calamar frit, tu vois. Et sincèrement, quand j'ai vu qu'il était en fait rempli, gonflé, oui, l'histoire du gland ou même de la cerise, plus que de la pomme, enfin dans ce que moi j'en ai vu, je me suis quand même posé la question en me disant, est-ce que c'est bien de ça dont on parle? Voilà.
Mais tout cas, c'était chouette parce que en plus c'était un moment donné où on avait nos règles. Mm-hmm. Du coup, c'était aussi émouvant de voir cette petite ouverture et cette petite goutte de sang qui perle dans une désarmante modestie, quoi. c'était vraiment... Mais voilà, du coup, il y a aussi plein de choses à observer parce que le col, apparemment, il peut aussi changer de texture, de couleur, etc. Donc, il y a plein de choses à observer. On peut aussi vérifier qu'on a toujours pour les personnes qui portent un stérilet, qu'il y a toujours le fil du stérilet. On peut aussi vérifier la position du fil. Enfin, vérifier comment est la glaire, comment sont les règles, etc. Donc... C'est hyper intéressant et en fait, je pense que ça peut être pas mal d'écouter ce petit montage qui a été fait. Enfin, en fait, il se trouve que par le plus grand des hasards, ce jour où nous, on a fait cette journée avec Fanny, il y avait une équipe de tournage qui était là. Donc, il y avait Léa, Raph et Isa qui étaient venus tourner un documentaire qui s'appellera Le soin des femmes. Voilà, et elles avaient envie de prendre des images et du son de cette journée-là. Et Léa a donc et Isa et Raph aussi, puisque c'est Isa qui a pris le son, ont eu la grande gentillesse de me fournir les prises de son, enfin une partie des prises de son du moment d'auto-observation, hein, qui a eu lieu donc en fin de journée. Et donc, j'ai pu faire, grâce aux sons qu'elles m'ont fournis, et je les en remercie, un petit montage de 12 minutes pour que vous sentiez un petit peu l'ambiance de ce moment, sachant que ce son a été pris, on avait tout un micro HF, et ce son a été pris, celui que vous allez entendre, à partir du micro HF de Fanny. Voilà. Donc vous allez entendre plutôt le point de vue de Fanny, mais vous allez entendre aussi un peu ce qui se passe autour. On écoute ça.
Ça va ? T'as peur ?
Ouais. Toi, tu utilises lequel, toi ?
Ouais, celui-là, c'est très bien.
Quoi, la différence, il y en a un qui est plus long et plus gros.
Celui-là, il est un peu plus long mais plus mince, c'est celui-là, il est plus court mais plus large.
D'accord.
Ah ouais.
Mais encore, essaye un et puis ça te va pas.
Attends, je regarde avec la taille de mes doigts.
En même temps, ça se joue vraiment à...
Oui, c'est pas pour toi, je crois, mais je sais pas. Après, tu sais, à l'intérieur, la sensation, c'est pas pareil.
T'as du mouchoir, toi, Pau ?
Je pense que c'est pas la meilleure position, l'eau.
Ok.
Ça dépend des personnes.
Et c'est moi qui ai le lubrifiant.
D'accord.
Ah là là, ils sont grossissants les miroirs.
Ah bon ?
Il y a une face, face grossissante.
Ah oui, c'est ça.
Une bulle qui m'a sauté au visage là.
C'est comme un goût, hein.
C'est peut-être pas le premier adjectif que j'aurais donné.
Moi je trouve pas mon trou pour fixer.
C'est le bordel, hein.
C'est ouf, c'est... J'ai pas de meilleur.
La meilleure phrase de l'après-midi.
J'ai pas de meilleur. Mais tu vois, j'avais jamais remarqué qu'il y avait autant d'espace entre le meilleur et le clitoris.
C'était quoi ta technique ? Tu remontes sur les côtés ?
T'écartes et tu remontes.
J'écarte et je remonte.
Ça ouvre un petit peu en fait.
Ah ouais !
Moi non plus j'en ai pas, je crois.
Si t'en as, il faut trouver le.
Non, je trouve pas du tout. Je suis perdue.
Et les petites fentes de part et d'autre du méa, elles sont très très visibles ou ?
Ça dépend des personnes.
D'accord.
Généralement, c'est un peu plus foncé parce que c'est en creux. Alors, ça fait plus fossette vu de l'extérieur.
Oui, ok, ouais, j'y suis alors.
Je savais que j'avais un pétale d'hymen qui restait, que je le sentais.
Ouais, yes.
Et là, je le vois et il est gigantesque. Beaucoup plus grand que ce que j'aurais pensé.
Et alors, c'est un espèce de truc à l'entrée qui est tentaculaire, c'est normal ?
Ouais.
Ouais, mais moi ça me fait ça. Ce serait l'hymen, ça ?
Ouais, c'est un reste d'hymen.
Ah ouais ?
Quoi ?
Mais c'est géant. Il est super grand.
Il est super grand. Et ça dépasse.
Mais oui, il tire la langue. Ouais, mais après, il faut vraiment que tu écartes doucement vers le bas de la vulve, quoi.
Ah ouais ?
Ouais.
Je teste.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle est en train de se foutre de ma gueule, quoi.
Est-ce que ça sort un peu ?
Alors, ça sort pas, mais que quand tu écartes un petit peu, t'as fait comme une petite langue...
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ça, c'est de l'hymen.
Bah ouais.
Mais non.
Bah écoute, c'est ce qui a l'air...
Ouais, mais je suis ravie qu'on en ait toutes des restes d'hymen, en fait. Mais moi, j'en ai même au taquet, en fait.
Ah là là.
Quand tu passes de miroir grossissant à dégrossissant, c'est quand même vachement moins impressionnant.
Mais je trouve fou, c'est que ce soit jamais tombé.
J'ai une espèce de boursouflure un peu sous le... Comment vous appelez ça, là où on fait pipi ?
Le méa.
Ouais, c'est normal ?
Comme une boursouflure de peau, un peu.
Ouais.
Ouais, c'est tout à fait normal.
Oui, on dirait même un téton, limite. C'est pas très agréable.
Ah, mais d'accord, merci. Comme ça, ça y est, j'ai trouvé
le
moyen.
Oh la vache, oui. J'ai trouvé le...
Yes, yes. Le
ouais, moi aussi.
Les glandes. Ah ouais, d'accord, ouais, ça fait quelque chose.
Ouais, ça oui, c'est pas super top agréable, quoi.
Ah si, au contraire, je trouve.
Ah ouais ? Ah ouais, je suis pas... Ouais.
C'est possible que t'aies plusieurs trous d'éjaculation.
Bah on dirait, hein.
Ouais. Il y en a qui en ont trois de chaque côté.
Oh.
Ah ouais ?
Bah moi, je vois un peu un truc comme ça. Ah, c'est... Comment vous faites pour voir tout ça ?
Tu... Alors en fait... En fait, tu écartes entre le vagin, on va dire, et le clitoris, plutôt vers le milieu de la vulve, et après, tu écartes et tu remontes doucement. Okay. Et là, quand tu remontes doucement, tu le vois. Ouais, c'est ça. Et on voit le petit trou avec les fossettes sur les deux côtés.
Il est très bas, en fait.
Il est super bas, ouais.
C'est très bas.
Parce que moi, je crois que j'en ai... Ah, mais oui ! Oh là là, c'est génial! Oh là là, c'est trop marrant. Et je trouve que mon clito, il est trop mignon, quoi.
Il est mortellement mignon. Ouais, après, quand tu mets ton doigt...
Où ça?
Dans ton vagin.
Ouais.
T'as la surface un peu striée, tu vois?
Ouais.
Et ça, c'est quoi déjà?
Ça, du coup, c'est derrière ça qu'il y a la glande parayométrale, celle de l'éjaculation.
Et si tu continues un peu, moi, je sens deux espèces de...
Ah oui, je
avec un espace au milieu, et c'est la jonction de clitoris,
c'est ça, la fameuse,
ouais, la croisée.
Mais c'est pas du tout au bon endroit mes trucs, hein. C'est tout mélangé à l'intérieur.
Faut vraiment mettre ton doigt, mais en allant vers
tu plies dedans,
vers le
haut.
Oui, vers le haut, mais vers l'intérieur, vers le ton os.
Et là, il y a des plis, et ce serait là. Après la zone striée, c'est ça?
Ouais.
Et là, on peut sentir le clitoris?
Enfin, moi, je sens que je suis au milieu d'un truc.
Ah, moi, je sens mon os?
Ouais, et bien juste après, tu sens. Quoi, hein, le deux petites boules.
Ah ouais! Et c'est quoi ça?
C'est la jonction du clitoris.
J'ai l'impression d'être quasi au rectum, moi. Je suis peut-être trop loin. J'ai l'impression que tout est dans le désordre aussi. Pauline, lubrifiant, stop. Ça fait bizarre, ouais. Et après, faut ouvrir doucement.
Ouais. Et après, tu le tournes.
Ça me fait. Ah merde, il sort. Putain, c'est un peu la galère, hein. De quoi?
Le manche, on le met en haut,
hein? Ouais, on le met en haut.
Oh, oh, t'as fou, quoi.
Je reveux bien du lubrifiant, s'il te plaît, Po.
Ah, je peux pas, j'ai les mains prises. Attends, il m'en fait. Merde, tu prends
le. Et ouais, c'est vrai, comme le spéculum, il déplie ses parois de vagin.
Genre
les sécrétions
qui se seraient
écoulées
en
dessous.
Ouais, merci.
C'est incroyable.
Attends, j'y suis pas, j'y arrive pas encore.
J'ai l'impression de visiter pas direct. Oh la vache.
C'est super chelou, quoi.
J'ai l'impression de découvrir l'Amérique, là.
Je suis Christophe Colomb, là.
C'est clair. Oh, bah il est sorti tout seul!
Ouais! Moi je vois rien en
fait! Je sais un peu parce que j'ai plein de balles et de l'huile de
spéculum. Alors, ça c'est quoi? Tu peux le pincer au-dessus, ton spéculum est sur le côté. Mais si ton fond est plat, c'est que t'es au fond du ballon. Mais ton col est calme.
Ouais! Donc il faut que tu fasses quoi?
Je vois rien moi! Oh là là, truc de ouf!
Alors?
Je vois pas!
Et moi, je crois qu'on n'est pas dans une bonne position comme ça pour regarder. Je pense qu'il faudrait plus qu'on soit vraiment couché.
Ça me donne envie de partager un truc que Marine a dit. C'est quand je lui avais proposé de mettre le spéculum sans regarder, en fait, et de faire au ressenti. Ouvre ton spéculum, c'est de voir selon tes sensations. Et une fois que tu penses que tu es au bon endroit, là, tu regardes au milieu.
Qu'est-ce que c'est beau, c'est rose et ça a l'air tellement bien, quoi.
Et quand ça se referme, c'est trop bien fait, quoi. Truc de fou. Bon. Moi aussi, je vais s'y accroupir.
Tu peux mettre le miroir par terre.
plat.
C'est de mettre au-dessus, en quelque sorte. Peut-être en tenant la langue dans ta bouche.
Enfin, je sais pas. Je sais pas si ce que j'ai vu, c'est même mon col.
Mmh. C'est trop. Ça fait finalement. Je me dis que ça ressemble un peu à un gland.
Ouais.
Ouais.
Ok, bah je l'ai vu alors.
Ah, ça m'a piqué.
Son col. Oui. Parce que moi je ne le vois pas et. Maintenant que tu nous montres ça, ça me semble tellement incongru qu'on ne nous apprenne pas à le faire et que ce soit un étranger ou une étrangère qui nous le fasse pendant des années.
Comme une chatte, je m'étire, je m'étends.
Bon, bah, ça donne un aperçu de ce moment qu'on a vécu. Et d'ailleurs, c'est marrant de réécouter ça parce que on entend vraiment au début les réactions de rire. Voilà, pour gérer collectivement l'aventure, en fait, on fait beaucoup de blagues et on rigole beaucoup. Et il y a aussi des réactions de dégoût, il y a aussi, enfin, il y a tout un tas de trucs. Et ça, Lou en avait parlé au début, c'est que ça. Ça peut susciter effectivement plein de trucs. Alors, ouais, ça peut te. Il y a plein de moments où tu as envie de te marrer. Il y a plein de moments où tu es un peu. Ouais, il peut y avoir du dégoût à gérer ou gérer une envie de pleurer ou gérer même des fois du plaisir. Bon, mais si j'ai du plaisir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, machin. Et,
moi, avec
ou du... d'être angoissé ou de parler beaucoup.
Voilà ce que j'allais dire. Moi, avec du recul, je m'aperçois que j'ai évacué mon stress en
parlant.
En parlant énormément. Bon, en plus, c'était de mon micro HF, donc forcément, on entend beaucoup ce que je dis, mais concrètement, j'avoue qu'il fallait que j'avais un besoin de sortir les choses et de le vivre pas à pas avec chacune.
C'est vrai qu'il y a des personnes qui rapidement se sont plus exprimées du tout, quoi. Mmh. Et qui se sont mis dans une bulle.
C'est
et
vrai.
Justement, qui se sont mis dans. Du coup, chacun fait avec le parcours qu'il a eu par rapport à son rapport à son sexe, quoi.
Il faut avouer qu'on découvre un peu l'eau chaude, quand même. Hein.
Mais c'est ça. C'est vrai que tu m'en avais un petit peu parlé avant l'émission, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment découvert la grotte souterraine, l'endroit le plus.
Ah, mais dans la mienne, il n'y a pas de peinture rupestre. J'étais un peu déçue.
Non, et puis en fait, on s'aperçoit à quel point ça. Enfin, moi, je m'aperçois à quel point ça peut être aussi vraiment formateur par rapport à ce que tu vis avec l'autre aussi dans différents rapports. Parce que, bah, voilà, tu te connais mieux. Et t'arrives à poser une image, t'arrives à... Et moi, j'aimais absolument pas ma chatte. J'ai eu des complexes pendant des années, quoi. Et je suis ressortie de là en me disant, putain, en fait, j'ai un truc entre les guibolles, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et j'avais l'impression d'être super forte.
Mais c'est ça, en fait, on a... parce qu'on a débriefé un petit peu après, pas mal. Et c'est vrai qu'il y avait un espèce de truc commun de se dire, oh là là... Ouais, il y a eu plein de moments dans cet auto-examen où on était perdus, on était paumés, mais du coup, on se soutenait vachement, on s'échangeait des techniques, etc. On disait, fais comme ci, fais comme ça. En tout cas, moi, personnellement, à un moment donné, je me disais, ah, mais les autres, elles voient un truc et moi, je vois pas. Peut-être que c'est pas bien si je le vois pas. Peut-être que c'est parce que je suis nulle. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de truc de...
peut-être qu'il me manque.
De oh là là, si j'y arrive pas à tout voir et à tout sentir. Mais malgré tout ça... Malgré ce vieux retour de culpabilisation, de justement t'es pas assez forte, en fait, si t'es en train de gagner en force et de gagner en... En fait, il y a plein de moments dans cet auto-examen où tu te sens perdu, mais tu reprends tellement possession des lieux, en fait, que
tu regagnes
en force, quoi.
Et puis tu reconnais des sensations passées. Enfin, moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait en me disant « Ah bah tiens, en fait, ah ouais, cette sensation-là, dans telle ou telle histoire ou telle aventure avec moi-même, ah mais ça, en fait, c'est parce que là, je touche telle partie. Et donc ça, c'est plus sensible à ce moment-là, tout ça. Et on arrive à poser des images, des mots, vraiment sur des sensations qu'on a pu vivre au préalable. »
Tu parlais de méthodologie, mais c'est aussi... Enfin, c'est pas... Enfin, je prétends pas que ce soit le cas de tout le monde, Mais c'était pas la première fois que je mettais un miroir entre mes jambes, en fait. J'ai fait plein de fois. Sauf que donc, je savais à quoi je ressemblais. Mais en fait, à un moment donné, c'est que avec les apports anatomiques, etc., bah, tu te mets à chercher des choses. Et tu te mets à savoir ce que tu cherches, en fait. Et du coup, moi, ça a été même l'examen extérieur qui est censé être pas trop chamboulant, bah, il m'a chamboulé, même si j'avais déjà mis plein de fois un miroir entre mes jambes. Finalement, même ce moment-là, je l'ai trouvé un peu...
Moi, j'avais jamais vu mon méa urinaire, par exemple.
Et voilà, voir le trou du pipi, les fossettes pour l'éjaculation, et qu'on n'en a pas toutes le même... Enfin, toutes les personnes n'en ont pas le même nombre, ni des mêmes côtés. De constater qu'il était plutôt vachement plus bas que ce que je pensais, enfin...
Et puis que ça amène des craintes. Enfin, je me souviens, moi, ne trouvant pas le trou du pipi ou le méa urinaire... Enfin, moi, en tout cas, j'ai galéré, on l'entend un peu sur l'enregistrement, quoi. Il y a une technique aussi pour le trouver, pour... Donc le simple miroir en autonomie, d'où l'importance aussi du collectif et de l'accompagnement.
En tout cas, pour finir un peu sur ces ressentis, je pense que la plupart des personnes sont ressorties là avec un bagage qui va bien au-delà de quelques connaissances supplémentaires sur son corps, et qui va bien au-delà d'avoir fait cette chose-là pour la première fois. Et j'ai l'impression que la chose a fait son chemin aussi dans les têtes, et que cette force qui a été gagnée et conquise, elle sert aussi pour tout un tas d'autres pans et de volets de nos vies, je pense. Et que du coup, comme disait Lou dans l'interview tout à l'heure, c'est une première approche dans le but de peut-être donner, à un moment donné, envie aux personnes qui ont participé à l'atelier de monter un groupe de self-help de leur côté, ou dans leur région, ou dans leur cercle. Et que du coup, il est aussi pensable d'envisager la création d'un groupe de self-help lotois, pour mettre en pratique vraiment ça et être vraiment dans l'autoconstruction collective d'un savoir, et vraiment de reprendre la chose pas à pas. Et
je le répète depuis le début, le collectif est un réel soutien, et c'est pas du tout une embûche. Je le pensais, et je ne le pense plus.
D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, et toi, t'as réitéré l'expérience toute seule, et moi, j'ai pas encore réussi à le refaire toute seule.
Ouais.
J'en ai très envie, et j'arrive pas encore à passer le pas, parce que du coup, je suis toute seule, et que j'ai envie de refaire ça en collectif, en fait.
Et alors, ce qui est super bizarre, c'est, je te rejoins complètement, parce que ça a été délicat de pouvoir le refaire seul. Et en fait, on s'aperçoit que, enfin, en tout cas, je m'aperçois que j'ai été bourrée de stéréotypes et de préjugés dès le départ sur ce que je pouvais faire. Je pensais absolument ne pas être en capacité de regarder les autres, ou en tout cas de me montrer aux autres. Et en fait, ben si. Et c'est venu petit à petit, alors que je pensais avoir une connaissance de moi quand même assez pointue. Et finalement, ben, je me suis aussi découverte.
C'est ce qu'on entend à la fin du petit montage, où il y a une personne qui dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour que je voie son col ?» Donc toi et moi, on était l'une à côté de l'autre, mais séparées par un petit paravent. Et puis finalement...
On partageait le lubrifiant quand même.
On partageait le lubrifiant. Et finalement, on a fait tomber le paravent qui était entre nous deux. Donc nous, on était l'une à côté de l'autre, mais on n'était pas visible des autres et on ne pouvait pas voir les autres.
Alors je précise qu'on se connaît depuis 20 ans.
Voilà. Et ensuite, il y a eu cette demande de « est-ce que je peux voir ?» Et on s'est retrouvés à être dans la posture d'être regardé et de voir, ce que je disais au début. Et que je me suis retrouvée à voir... un col, en l'occurrence le tien. Je crois que tu as regardé le mien.
Mmh, exact.
Et il y a une autre personne, il se trouve que nous, on se connaît depuis 20 ans, mais il y avait des personnes, enfin les autres personnes, on ne les connaissait pas du tout. Et qu'on s'est retrouvés, toi je ne m'en souviens plus, mais moi je me suis retrouvée avec deux personnes que donc j'avais rencontrées le matin même, qui se penchaient sur le miroir que j'avais entre les jambes et qui regardaient mon col. Et c'était trop cool, quoi. Ouais. C'était trop bien, j'avais tellement envie de leur offrir ce col. Ouais, il y avait cette sensation de vas-y, ceci est mon col.
Mais ce qui m'a fait super bizarre, c'est que finalement mon intérieur était beaucoup moins intime que mon extérieur. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de facilité à montrer mon col de l'utérus que, par exemple, mes petites lèvres. Ouais, voilà, mais je le spécifie, moi. Parce que je montre mon clitoris, c'est absolument très mignon. Mais voilà, j'ai vraiment... j'avais l'impression que plus c'était profond à l'intérieur et tout, et plus ça allait être intime. Et en fait, je me suis aperçue que pas du tout. Et que j'étais même plus à l'aise avec un intérieur qu'avec mon extérieur de vulve.
Et en plus... Il me semble qu'à ce moment-là, je crois qu'on était les deux seules personnes qui avions nos règles à ce moment-là.
Ouais.
Et que concrètement, quand les personnes qui nous ont regardées se sont penchées, il y avait un peu quand même du sang partout. Hein, parce que ça sort, tu t'en as sur les mains, tu tâches. Mais tout ça était tellement pas grave et tellement pas...
C'était différentes étapes du col de l'utérus.
Ouais, voilà. Enfin, puis c'était différentes étapes dans ce rapport à tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le sang n'avait pas... Tout le monde se fichait du sang, quoi. Et je vous renvoie à l'émission précédente sur les règles, hein, parce qu'on va pas repartir là-dessus, mais en tout cas, le sang avait une place très, 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 très anecdotique à ce moment-là, quoi. Voilà. Peut-être qu'on va avancer un peu, parce que je crois que l'émission est longue. On va juste écouter, avant de glisser vers la fin, un petit morceau de Crudas Cubensi, Mi cuerpo es mío.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derecho de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario.
Gentiment s'acheminer vers la fin de l'émission. Il y a plein de trucs à dire, on a dit plein de trucs et je pense qu'il y a encore mille choses à dire et je pense que j'aimerais bien faire la prochaine émission en mode un peu témoignage comme j'avais fait une fois, mais sur le rapport à sa santé sexuelle et aux violences gynécologiques éventuellement. Si vous avez envie de venir témoigner, vous pouvez nous écrire sur notre mail que je donnerai à la fin de l'émission. Avant de terminer, je voudrais faire juste un petit... parler un petit peu de... pour aller un peu plus loin sur cette idée de réappropriation des savoirs et d'autonomisation, parler un peu de Clau Kinky et du collectif féministe Jean et Punk. Donc Jean et Punk, c'est un collectif qui est né à Calafou en Catalogne. Calafou, c'est un lieu un peu particulier d'expérimentation sur plein de choses. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment cool, on parle d'eux sur internet. Et Clau Kinky est donc une des meufs qui a fondé ce collectif Ginépunk. C'est une féministe et hackeuse. Et elle était également dans cette volonté de réappropriation et d'autonomisation. Mais ce collectif-là est allé encore plus loin puisque elles ont créé un labo. Et elles ont carrément développé des outils de biohacking et notamment un kit, par exemple, d'auto-examen pour analyser ces fluides. Donc, elles ont développé des connaissances techniques très, très importantes et poussées. Elles ont fait une centrifugeuse avec un moteur de disque dur. Elles ont fabriqué un incubateur. Elles ont fabriqué un microscope aussi avec une webcam. Et d'ailleurs, le mode d'emploi pour fabriquer ce microscope est en ligne. Je vous mettrai le lien sur notre audioblog. Voilà, mais il y a moyen de fabriquer un microscope avec une webcam. Et du coup, avec tous ces petits matos, il y a moyen d'observer, en fait, de prélever ces fluides, les centrifuger et observer les cellules avec ce microscope pour identifier les infections X ou Y, par exemple, quoi. Et puis elles ont développé tout un tas de tests do it yourself, hein, puisque c'est carrément dans cet esprit-là, pour pouvoir identifier et trouver si on a une mycose, un papilloma, différentes IST, même des tests de grossesse. Voilà, donc c'est une hackeuse de la gynéco, en fait, hein, elle est, c'est une sorcière technologique, quoi. Et voilà, hyper intéressant. Je vous invite, pour découvrir vraiment ça, à voir une captation d'une conférence que Clau Kinky a donnée. Vous pouvez voir ça sur Vimeo. Ça s'appelle « La nuit de la gynécologie DIY ». Et donc, c'est la captation d'une conférence de Clau Kinky, donc en bilingue, hein, puisqu'elle ne parle pas français, elle ne parle qu'espagnol. Et donc, la conférence est traduite. Elle fait une première partie où elle résume toute l'histoire de la gynécologie, comme on disait tout à l'heure, qui est une histoire extrêmement violente. Hein. C'est un savoir qui est bâti sur une grande violence. Et je n'ai pas encore tout à fait fini de la regarder, cette conférence, mais j'ai hâte de rentrer pour la finir. Et voilà, je vous invite à voir ça, la nuit de la gynécologie DIY par Clau Kinky, et puis à regarder un peu ce que fait ce collectif Ginépunk. Voilà, quoi dire d'autre ? Il y a plein de... Si tout ça vous intéresse, il y a plein de choses à lire, à regarder, à faire. On a parlé de notre corps nous-mêmes, donc ça... on peut nous le mettre à disposition, ou vous pouvez le trouver soit en version anglaise, soit en version française. C'est la version de ce qu'a écrit ce qu'ont écrit les collectifs de Boston. Dans le même idée que notre corps nous-mêmes, il y a un bouquin qui s'appelle L'auto-examen, un geste de santé. C'est la même chose en gros, mais chez les Québécoises. Et ça s'est sorti en 86. C'est édité par le Centre de santé des femmes de Montréal. Et voilà, Rinanissime, on en parlait tout à l'heure, Mama Mélisse, et puis Une sorcière des temps modernes, qui est quand même son ouvrage qui parle du self-help.
Et Trèfle de vie aussi.
Voilà, toi tu l'as lu, moi je l'ai pas lu.
C'est pareil, c'est un livre qui nous accompagne pas à pas sur les, on va dire, les premiers symptômes problématiques du sexe, voilà.
Et donc il va avec Mama Mélisse, qui est plutôt axée plante.
Juste petite information, c'est une femme qui reste très accessible. Moi, j'ai eu plusieurs contacts par mail avec elle, notamment sur de la contraception naturelle. Et c'est quelqu'un, malgré sa notoriété, qui répond, prend le temps, accompagne. Donc n'hésitez pas.
Super. Et puis si... vous avez envie de trouver aussi un praticien ou un soignant qui soit safe et respectueux de qui vous êtes et respectueux de vos problématiques de poids, de toxicomanie, de handicap, de sexualité, de race, de genre, de classe, de tout ça. Vous pouvez visiter le site du collectif Ginenco. J'en ai déjà parlé, mais je le redis, c'est toujours bon à savoir, qui recense une liste de praticiens respectueux, justement. Et c'est un projet collaboratif. Donc, si vous avez une expérience super positive avec un soignant, qu'il soit sage-femme ou gynécologue, eh ben, vous pouvez leur proposer de publier les coordonnées de cette personne. Voilà. Et ça permet de trouver aussi des soignants dans votre région. Et puis, si cette première approche du self-help vous intéresse, il y a une page Facebook qui s'appelle Self-Help Toulouse. Vous pourrez retrouver sur cette page l'agenda un peu de ces ateliers-là pour s'y inscrire. À noter que c'est à prix libre. Voilà. Il y a peut-être d'autres choses à rajouter sur des bouquins, des films, des trucs qui t'ont marqué?
Moi, il y a un film qui m'a marqué, qui, je pense, m'a en tout cas sensibilisé ou donné envie d'aller à cette journée self-help. C'est le film qui s'appelle Regarde, elle a les yeux grands ouverts, où c'est certaines personnes des années 70 qui se sont battues pour se réapproprier, on va dire, le savoir médical, mais plutôt d'un point de vue des naissances, voilà, de la mise au monde, de la maternité, de l'accouchement. Et donc c'est un peu cette même démarche, et d'ailleurs des médecins des années 70 ont accompagné des femmes lambda dans ces démarches-là, les ont formées. Et l'idée pour ces femmes-là, c'était justement de faire tache d'huile et de véhiculer un maximum de savoir pour que toutes les femmes se le réapproprient dans n'importe quelle étape de notre vie. Voilà, donc ça reste pour moi une référence.
On peut le trouver sur Internet ?
Complètement.
Ok. Si, il y a quand même y a un info-kiosque intéressant là-dessus.
L'info-kiosque, oui, c'est toujours chaud dans les culottes des filles. C'est toujours chaud dans les culottes des filles et ça remet jusqu'aux lèvres. Donc, deux petits manuels qui peuvent nous expliquer, nous accompagner pas à pas sur nos petites problématiques, on va dire, quotidiennes, ou en tout cas nos questionnements, nos doutes, nos peurs.
Et puis, ça remet jusqu'aux lèvres, c'est aussi un manuel d'autodéfense. Ça permet aussi d'être plus forte et plus armée par rapport à la... Il y a aussi plein de conseils d'attitude et de positionnement à avoir par rapport à une consultation, genre y aller avec quelqu'un, quoi.
C'est ça.
Carrément. J'ai envie de dire... Enfin, c'est plutôt Fanny qui a envie de dire...
Salut !
C'était le au revoir de Fanny, ça. C'est pas que j'allais mettre ça.
C'est quoi, ça ?
C'est quand t'as perdu ton spéculum.
Ah, ok. D'accord.
C'est cool d'être venue en tout cas à ce micro.
Merci.
Pour parler de cette journée qui était vraiment chouette. Merci Fred.
Merci Fred.
Merci les filles. Encore une fois, j'ai appris plein de choses et j'ai vraiment envie de découvrir ce self-help. J'ai envie de découvrir mon corps moi aussi.
On va en faire un dans le lot alors.
Carrément.
Exactement.
Et cette émission. Vous pourrez la réécouter jeudi prochain à 14h et puis la redécouvrir aussi sur l'audioblog Arte Radio Superlatif d'Élise. Et si vous avez envie de nous demander des trucs ou de nous dire des trucs ou de nous demander des choses par rapport aux liens qu'on a donnés, etc., si vous voulez des précisions, moi je vais mettre tout ça sur la page de l'audioblog, toutes les références qu'on a données. Et en tout cas, vous pouvez nous écrire à Superlatif d'Élise, tout attaché en minuscules et sans accent, @riseup.net. On vous dit à la prochaine, parce que du coup, comme on sait pas quand c'est, on dit juste à la prochaine. Et ça peut être cool que ce soit une émission de témoignage et ce serait bien qu'on soit plein autour des micros pour raconter des histoires. Voilà. Merci Fred, merci Fanny.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
On va se quitter sur un groupe qui s'appelle Reykjavik hors des tours. Un featuring avec Black Party et ça s'appelle Pussy Pix. I wish my pussy was my face to make the world a better place. I wish my pussy was my face to make the world a better place. Hips in your pelvis, cut out any heavy
face with a funny snake on Kennedy or Barry Fitzgerald. Baby, ég er líkt að þér, kom þú fundu blæði mér Myndi alltaf vera alls ber og enginn myndi þór í mig Það þetta klámaði, síðan fullur af pussy pics Já, það þetta klámaði, síðan fullur af pussy pics Já, Can't stop sending those pussy pics Those pussy pics
Take a look at the clip
Those pussy pics Those pussy pics
Start rubbing the clit
Those pussy, 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 pussy Those pussy pics Those pussy pics
Take a look at the clit
Heitir fylltust, dreitt í rusli, með guðu lífin það dimmt og þið týndust, Veist þú vilt mig, er alltaf fyll, hey, skynstu ekki máli, er ekki gill Klikku hata það, jöp, komdu hata, jöp, hata sig mest, ekkert verður left, farin eins og bent Veit alltaf hvert ég
er að fara,
klikku gebið, sér langa að hata,
langa hata,
bara hata og hata Ekki tilbaka, snýfittum delunum sem ég vitum og delunum og opiðu Bounce, bounce, bounce it baby, bounce, bounce, bounce it baby Down, down, rock the baby, say it with me Lose my pussy, lost my face To make the world a better place It's your party, the cross my body, heavy, sweet The forest, take or kill it, you're not quite a fit line Baby, ég líkt að vel, kom þá fundu bræði mér Myndi alltaf vera alls ber og engin myndi þór í mig Can't stop sending those pussy pics Those pussy pics
Take a look at the clip
Those pussy pics Those pussy pics
Start dropping the clip
Those pussy, 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 pussy Those pussy pics Those pussy pics
Take a look at the clips